tout au long de cette journée. Alors justement, Arène, on l'évoquait hier soir lors de la conférence introductive avec Vincent Kaufmann et Éric Charéron. Il a été rappelé, vous l'avez précisé, que Rennes a une longue pratique en la matière, un bureau des temps qui existe depuis 2002.
Oui.
Et donc, est-ce que l'on peut considérer que ce territoire, il a aussi un petit côté expérimental dans ce domaine ?
Oui, parce qu'effectivement, on a expérimenté différentes choses, et notamment en lien avec la mobilité. On avait travaillé, le Bureau des temps avait travaillé il y a quelques années sur, et s'est penché sur la question de la congestion dans le métro, qui était donc oui, très très vite victime de son succès, et qui a amené à un travail sur le décalage des horaires, comme ce matin de commencer à 9h15.
Et c'était pour et les cours de l'université à Rennes 2.
L'université, voilà, de décaler, pareil, juste d'un quart d'heure certains cours, pour désengorger le métro sur une hyperpointe le matin, et qui a très 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 bien fonctionné. Et voilà, ça c'est un exemple sur lequel on s'est penché, mais on est tout le temps en train de travailler sur cette question. Et notamment, il y a Jean-Jacques Bernard qui est vice-président au déplacement ici à Rennes Métropole.
On le retrouvera cet après-midi.
Tout à fait, qui va peut-être encore un peu
notamment sur
de parler.
Le PDU, hein, le plan de déplacement aussi, urbain, qui intègre cette année cette définition. Vous venez de redéfinir
ce
dispositif.
L'idée, c'est quand même
cadre.
Que les politiques temporelles, c'est une question très transversale. Ça touche vraiment tous les pans de notre vie au quotidien. Et donc, l'idée, c'est de faire rentrer les politiques temporelles dans tous les domaines, et notamment donc, le PDU, où la question du temps est rentrée en compte. Ouais.
Merci beaucoup, Katia. Vous allez rester avec nous tout au long de cette journée.
Tout à fait.
Vous avez des attentes particulières, justement, sur les débats, les échanges qui vont avoir lieu aujourd'hui.
Ben justement, c'est de se dire aussi, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut encore mettre en place, parce qu'on a déjà travaillé sur beaucoup de choses, mais c'est aussi de voir c'est quoi les changements qui vont venir et comment y répondre éventuellement. Et voilà, c'est toujours très, très intéressant de voir toutes les idées qui peuvent émerger de ce genre de rencontres.
Katia Kruger, merci beaucoup pour votre accueil et cette introduction qui pose bien les enjeux de ce séminaire. Alors, la bonne nouvelle, c'est comme en Formule 1, il y a des compensations de temps intermédiaires. Il est exactement 9h29, presque 30, et c'est le moment de vous accueillir. Et là, on est parfaitement dans les temps. Léa Marzoff, merci d'être avec nous pour nous éclairer sur nos évolutions par rapport à la mobilité. Léa, vous êtes au sein du cabinet du groupe Chronos, la directrice veille et analyse stratégique. Je crois que c'est comme ça que l'on définit votre fonction. Et vous avez prévu, pour introduire en quelque sorte cette journée, oui, ça fonctionne, tout va bien, de nous parler de ces mobilités et des contraintes qui peuvent les accompagner avec des chiffres. Vous avez des enquêtes récentes. On va pouvoir les commenter ensemble. Vous êtes venu avec quelques graphiques, quelques planches tout à fait éclairante. Alors, on va découvrir tout ça ensemble et puis on pourra prendre le temps d'échanger ensuite. Mobilité sous contrainte, et il y a un S au pluriel, hein, des contraintes, elles sont plurielles. C'est
alors,
à vous.
Qu'est-ce qui était là hier soir ?
Levez la main. Oh, bah dis donc.
D'accord.
Ils savent tout déjà.
Donc,
alors.
Normalement, vous avez ruminé beaucoup de chiffres pendant la nuit, déjà, avec ce que Eric et Vincent vous ont présenté. Donc, j'espère ne pas apporter de la confusion. Voilà, là-dedans, c'est plutôt des données complémentaires que je vais apporter. Ce qui était intéressant notamment dans l'intervention d'Éric, c'est qu'il a aussi beaucoup expliqué par le prisme du local, hein, en reprenant des données de Rennes et de la Bretagne, comment ça se structurait. Vincent nous a donné pas mal d'éléments internationaux et beaucoup d'éléments aussi sur la grande mobilité. Moi, je vais vous présenter un certain nombre, en effet, de résultats au niveau de la France. Et donc, pourquoi j'ai appelé ça une mobilité sous contrainte ? Parce que des résultats donc, que je vais vous présenter de l'Observatoire des mobilités émergentes s'intéressent aux mobilités quotidiennes et s'intéressent notamment aux contraintes de temps liées à la mobilité, la qualité de ces temps et les choix ou les non-choix que l'on a.
Tout ça, ça s'appuie hein, sur des données objectives. Voilà, une enquête.
Alors, données objectives. Eric, vous direz qu'il ne croit qu'aux enquêtes ménage-déplacement. En quoi c'est intéressant et c'est quoi la méthodo ? C'est quand même intéressant de voir de quoi on parle. On parle d'une enquête quantitative, donc un questionnaire, passé auprès de 4000 Français représentatifs de la population de 18 à 70 ans. Donc, en effet, avec une méthodologie d'enquête en ligne, on sait qu'on ne touche pas bien les seniors. Donc, c'est une des limites de cette enquête.
C'est France entière.
C'est France complète. On en a fait 1000 Anglais, 1000 Espagnols et 1000 Allemands pour pouvoir avoir aussi une comparaison internationale et mettre en regard les résultats. C'est une enquête qu'on a passée en 2018, donc qui est très récente. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a fait cet observatoire en 2014, 2016 et 2018. Donc, on voit des évolutions. C'est-à-dire que tous les deux ans, en gros, on garde 70% des questions en commun. Et donc, on peut voir les évolutions. Il y a des évolutions qui sont rapides, d'autres beaucoup moins. Et du coup, on fait ça avec, en effet, le soutien de l'ADEME, Keolis, MAPI et SNCF. Et c'est des résultats confidentiels que je vais vous présenter ce matin.
Oui, c'est en avant-première. Hein.
C'est en avant-première, peut-être qu'un jour, voilà, un moment, on l'ouvre, mais en attendant, on a un modèle économique à assumer, tout simplement. Donc, on le vend aussi. On le vend d'ailleurs aussi à des collectivités, puisqu'on peut faire des exploitations sur des collectivités de plus de 400 000 habitants.
Il y a des extractions possibles.
Oui, voilà, ce qui donne une possibilité pour des collectivités de voir où elles se situent et aussi de voir où elles se situent par rapport à d'autres collectivités en France de taille équivalente. Mais rentrons dans l'état des lieux. Quelques éléments sur les temps et les modes de transport. Alors, en général, combien de temps dure un trajet aller-retour pour vos déplacements suivants en semaine ? Donc là, ça renvoie en fait au temps de mobilité quotidien des individus. En France, c'est 52 minutes.
C'est la moyenne.
C'est la moyenne de déplacement, mais en fait, on voit que cette moyenne ne veut pas dire grand-chose parce qu'on a du 62 minutes pour les actifs et étudiants et du 30 minutes pour les inactifs, retraités ou chômeurs. Et sur les actifs et étudiants, la moitié de ce temps de déplacement, c'est du domicile travail ou du domicile études. Et quand on regarde les seuls actifs et qu'on éloigne les étudiants, on est sur du 40 minutes, d'accord ? Donc ça veut dire que sur les 60 minutes, sur l'heure de déplacement des actifs, 40 minutes et dévolu au domicile travail. Sur les inactifs, les retraités ou les chômeurs, on voit que... Alors, on n'a pas là le petit niveau de détail que nous a apporté Eric sur des motifs plus fins, en fait, qui apparaissent derrière, bien entendu, que peuvent être les déplacements liés notamment à la santé. Mais ça se structure autour de trois grands temps. D'abord, rendre visite à son entourage. Ensuite, faire des courses, un certain nombre d'achats, et puis se rendre sur des lieux d'activité, hobby, sport, cinéma, qui arrivent derrière.
Ce sont des invariants. Vous faisiez référence, Léa, aux études ou aux enquêtes des années précédentes. On avait les mêmes proportions.
On pourra en discuter avec vous, parce que vous avez justement aussi des résultats au niveau local. Là, c'est des résultats France. Le temps de déplacement bouge peu. En fait, la structure évolue. Et donc, plus on passe du temps domicile sur des trajets domicile-travail, moins on se déplace pour autre chose. Mais la masse globale évolue peu. Alors, sur les modes de transport qu'on utilise pour se rendre sur son lieu de travail d'études, on regardera après la question des combinaisons. Mais la voiture... qui est en tête comme mode principal pour 66% des Français, avec quand même lueur d'espoir, un moins 2 points par rapport à il y a 2 ans, suivi de la marche, des transports collectifs, et puis derrière ça, on a le vélo. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ceux qu'on utilise en occasionnel.
Ouais.
D'accord ? Et donc là, ça renvoie à des stratégies de multimodalité, donc d'alternance entre différents modes de transport. Et là, vous voyez...
Le vélo occasionnel a l'air de...
Voilà, le vélo occasionnel, la marche est quand même assez forte, mais le vélo occasionnel progresse, la marche progresse. En revanche, les objets de glisse urbaine, et attention là, au prisme de certaines métropoles. Et quels que soient les pays européens qu'on regarde, ça reste minime dans les déplacements domicile-travail. Ce n'est pas du tout significatif. Que les la trottinette,
les
overhead, overboard, shower wheel et je ne sais plus trop quoi. Enfin, tout ça. Alors, peut-être regarder aussi la structure de ces déplacements parce que quand on bosse dans le domaine des mobilités, on a l'impression donc, qu'il y a en effet des graals, des mots du moment, des tendances. Vincent nous parlait hier du véhicule autonome, puis du MaaS, dont je vais aussi reparler, MaaS pour l'acronyme de Mobility as a Service. Et il y a cette tendance à dire qu'on est intermodaux. Donc on combine différents modes de transport dans nos déplacements du quotidien. Alors nous, on a considéré la marche dans l'étude comme un mode de transport au-delà de 5 minutes. Je crois que le CEREMA, c'est plutôt au-delà de 10 minutes. Bon, en gros, on a considéré que...
Non, ça rentrait... Je vois quelqu'un du CEREMA qui dit non, c'est pas au-delà de 10 minutes.
Alors
vous pouvez prendre le...
Vous la prenez, voilà. Alors nous on la prend. On a estimé que ça rentrait dans un principe d'intermodalité au-delà de 5 minutes de marche. C'est-à-dire qu'on n'a pas considéré que la personne qui descendait à son parking ou qui allait juste à la station de bus en bas de chez elle était un marcheur. C'est un choix qu'on a fait. Donc, je vous rappelle, la monomodalité ici, c'est n'utiliser qu'un seul mode de transport de manière systématique ou presque pour ses déplacements. Multimodalité, j'alterne entre différents modes de transport, et intermodalité, je combine.
Alors, il y a une différence sur ces graphiques très nette entre un sujet qu'on a évoqué hier, évidemment, les métropoles et le reste.
J'imagine que je ne vais faire que confirmer des intuitions que vous avez. Ou des choses que vous connaissez. Si on regarde à l'échelle de la France, on est essentiellement monomodaux. Et quand on regarde les monomodaux, c'est à 75% des monomodaux voitures. Donc ça veut dire une part extrêmement importante des Français n'utilisent que la voiture pour leur déplacement du quotidien. 26% alternent et 10% combinent différents modes de transport. Si on regarde sur le centre des 17 grandes métropoles françaises, là, la multimodalité et l'intermodalité l'emportent. Alors, cette multimodalité, elle est souvent elle est organisée en alternance. Souvent, c'est TC, vélo, et on retrouve de la marche et de la voiture. Et l'intermodalité, elle s'articule essentiellement autour des transports en commun. Quand il y a intermodalité, il y a quasiment toujours du transport en commun à l'intérieur.
Bus, tramway, métro.
Ça n'évolue pas, depuis 2000. Alors si, ça avait un petit peu évolué entre 2014 et 2016, et puis là, ça stagne, voire même la monomodalité a repris quelques points. Mais c'est de la monomodalité vélo et TC qui a pris quelques points. C'est-à-dire qu'on arrive avec des profils qui ne font quasiment plus qu'exclusivement du vélo ou du TC pour leur déplacement du quotidien. Donc voilà pour quelques éléments sur ces temps et ces modes de transport. Je voudrais maintenant vous parler...
Alors, qu'est-ce qui est choisi et qu'est-ce qui est subi, c'est ça? Et les tensions c'est entre différentes solutions disponibles.
Ça aussi, c'est un peu un thème qu'on voit, qu'on lit pas mal, la question de la mobilité subie, de la mobilité choisie. C'est extrêmement subjectif comme notion. On a essayé de creuser un petit peu ça dans cette étude. Notamment, ce qu'on a cherché à comprendre, c'est la capacité à ajuster les horaires de déplacement. Donc on a 62% des actifs français qui n'ont pas le choix de leurs horaires. C'est similaire aux autres pays européens. Et 35% qui doivent se déplacer aux heures de pointe. Une proportion plus importante dans les grandes agglomérations.
Ça, c'est un frein, justement, a priori, qui s'impose et qui limite la possibilité de faire différemment.
Après, moi, finalement, le chiffre de 35%, je le trouve plutôt faible, finalement, un peu comme ce que disait Eric.
Oui, il y a 65% qu'on choisit, on peut dire ça comme ça aussi.
Non, mais c'est surtout en fait, ça représente quand même une majorité des actifs qui ne sont pas obligés de se déplacer aux heures de pointe, en fait, qui sont déjà qu'on pourrait dire décalés par rapport à une certaine norme. En fait, la norme de cette hyper-heure de pointe, elle reste quand même minoritaire dans l'organisation des déplacements. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le peu de capacité qu'ont les Français à pouvoir faire varier leur lieu de travail en fonction des circonstances. Alors,
ça, c'est l'idée du télétravail, c'est l'idée
Non, pas que. Ici, c'est un peu plus, parce que le télétravail, on l'a mesuré par ailleurs. On sait que, en gros, 30% des Français peuvent, enfin, télétravail, que ce soit dans un cadre légal ou pas. Là, c'est la question, c'était plutôt, avez-vous la possibilité de choisir l'endroit où vous allez travailler en fonction des circonstances, et c'était entre parenthèses météo, embouteillage, contraintes familiales. C'était comment je peux ajuster, voilà, s'il y a une galère, pour être tout à fait transparente. Et là, ce qu'on voit, c'est que les Français peuvent beaucoup,
moins que les autres.
Deux fois moins ajustés que les Allemands, par exemple. Mmh. Voilà. Donc, ça veut dire
et pourtant, les structures d'emploi sont assez comparables entre les deux pays. Donc, il n'y a pas plus d'Allemands qui ont des métiers propices à ce genre d'exercice.
Ça se joue, à mon avis, à deux niveaux, mais on pourra en discuter. Ça joue d'une part dans la confiance entre l'employeur et l'employé, dans le cadre de l'entreprise qu'on a en France. Et puis, ça se joue aussi dans la question des lieux qui peuvent accueillir ce travail à distance. Parce qu'on parle de télétravail, mais...
Les tiers-lieux, voilà, les espaces de coworking...
Hier, je voulais pas aller au boulot, je pouvais pas bosser chez moi, il y avait tous mes enfants. Je me suis dit, la bibliothèque, OK, je suis au centre de Paris, la bibliothèque, elle ouvrait à 13h. Je me suis dit, attends, comment je fais ce matin ? Je suis allée me réfugier chez mes grands-parents après avoir... voilà. Mais du coup, il y a aussi la question de où est-ce que je vais travailler, où est-ce que je vais pouvoir héberger ce calme, me connecter, me brancher, etc. Et là encore, on parle de certains métiers. On a bien vu hier qu'on avait à peu près 60-70% des métiers qui n'étaient de toute façon pas télétravaillables. J'ai aucune idée du temps.
Le temps,
ouais.
Le vôtre,
ouais.
Regardez, juste en face de vous.
D'accord, on a jusqu'à 10h.
On a jusqu'à 10h, okay, on est super. Pas mal. Et là, justement, qu'est-ce qu'on fait dans ces temps de transport ? C'est l'indication qui apparaît à l'écran.
Ouais.
Temps perdu, choisi, subi, utile ?
Alors là, on l'a tout simplement fait choisir entre... il y avait au moins cinq options. Entre, justement, est-ce que vous estimez que votre temps de mobilité... du temps perdu, des moments inconfortables que vous souhaitez éviter, ou alors plutôt un temps de rencontre, un temps pour réaliser des activités, un temps pour se détendre. Ça renvoie aussi à ce que nous disait Vincent hier sur qu'est-ce qu'on fait de cette mobilité et comment, quand de toute façon on est contraint, on essaye d'en faire quelque chose. On essaye d'en faire quelque chose, mais quand même, on a du mal, quoi. C'est-à-dire que, et là on voit que la France est bien en tête du podium sur la mobilité subie. C'est-à-dire qu'on a 59% des Français et 65% des automobilistes quotidiens, si on regarde cette population, celle-là, qui nous disent que leur temps de transport...
C'est du temps perdu.
Leur temps de mobilité quotidien, c'est du temps perdu ou des moments inconfortables qu'ils souhaitent éviter. Donc, pour moi, c'est ça, la mobilité subie. C'est-à-dire qu'on a 60% de Français qui nous disent, en fait, ça ne me va pas.
J'aimerais mieux être ailleurs.
Ce truc-là, ça ne me va pas, ça ne me convient pas. Donc, bien entendu, votre rôle est éminemment essentiel, parce que les politiques que vous menez, les politiques temporelles, les politiques aussi de proximité, les politiques sont clés pour résoudre ces enjeux-là.
Mais est-ce qu'on a le choix, vraiment, Léa ? Hein ? Est-ce qu'on a le choix, finalement, de s'organiser ?
Je discutais avec une start-up qui a été d'ailleurs montée par la directrice de com' de Blablacar, et elle... Elle, ce qu'elle va chercher à faire, c'est justement voir, dans tous les cas où c'est possible, comment relocaliser l'emploi. Donc, c'est-à-dire comment échanger des postes, faire une espèce de bourse entre des infirmières qui travaillent dans cet hôpital et d'autres qui travaillent dans cet hôpital, et du coup, leur faire échanger leur poste pour qu'elles soient plus proches. C'est tout ce qu'on appelle aussi la ville cohérente, etc. C'est extrêmement compliqué à organiser, mais personnellement, je ne vois pas d'autre issue possible que cette question de retravailler les proximités, en fait. Voilà, ça, c'était pour le tableau un peu dark. J'ai encore une slide un peu comme ça, sympa, qui nous dit quoi ? Qui nous dit que 42% des Français nous disent ne pas avoir le choix entre différents modes de transport pour leur déplacement du quotidien. La question, c'est celle-ci. Avez-vous le choix entre différents modes de transport ? Non, je n'ai pas le choix. 42% n'ont pas le choix. Alors, là aussi, c'est une notion subjective.
42% ont le choix, là, non, c'est pas
42%
Seulement ont le choix, et ça monte jusqu'à 62% des Espagnols.
Tout à fait, 42% ont le choix, donc 58% n'ont pas le choix. Et oui, je disais, cette notion de choix, elle est subjective parce qu'elle peut renvoyer à « j'ai le choix parce que j'ai différents modes de transport chez moi ». Donc j'ai le choix parce que je peux alterner entre un vélo, une trottinette, une voiture éventuellement. Ou j'ai le choix parce qu'il y a des offres autour de chez moi qui sont disponibles et que je connais et que je sais utiliser. Donc j'ai une sensation de choix. Donc en effet, là aussi, on est en haut ou en bas du podium en fonction de comment on regarde les choses. Mais ce qui est intéressant, vous regardez la frise du bas. Donc vous avez à gauche les habitants des communes rurales. À droite, les habitants de l'agglomération parisienne et encore plus à droite, les habitants des villes-centres des métropoles. Et en fait, il y a... j'oserais parler de corrélation, c'est-à-dire que systématiquement, lorsque vous augmentez la sensation de choix, vous diminuez la part de l'utilisation de la voiture. En vert, vous avez le pourcentage d'automobilistes quotidiens. Et en rouge, vous avez les individus qui déclarent avoir le choix. Donc 17% des habitants des communes rurales nous disent avoir le choix et 64% utilisent la voiture tous les jours. Dans les villes-centres des métropoles, 67% des habitants nous disent avoir le choix et 31% utilisent la voiture tous les jours.
Dit autrement, plus on a le choix, moins on prend le volant.
Voilà, tout simplement. Donc on en reparlera, mais ça fonctionne. Ça renvoie aux tensions dont on parlait aussi un petit peu hier. On les a interrogés sur est-ce que finalement vous préférez limiter vos déplacements ou choisir là où vous allez habiter, quitte à allonger vos déplacements. Donc vous avez en rose là-haut, je préférais choisir mon lieu d'habitation quitte à allonger mes temps de trajet pour me rendre sur mes lieux d'activité. Et vous avez en vert, je préférais limiter des déplacements et pour cela habiter à proximité de l'ensemble de mes lieux d'activité, quitte à ne pas exactement habiter là où je veux. Clairement, on est sur du 50-50. Et quand vous regardez en bas, c'était d'autres tensions qu'on interrogeait sur est-ce qu'il faudrait que la technologie nous permette de nous déplacer toujours plus vite ou est-ce qu'il faudrait que la technologie nous permette d'être moins obligés de nous déplacer. On est dans les mêmes tensions, en fait. On est dans des tensions extrêmement fortes sur ces questions. Entre du coup des logiques de démobilité, des logiques de mobilité importantes. Alors quand on regarde un peu le détail, ça fait partie des jolis petits tableaux qu'on sort. Hop. On a été regardé finalement toujours sur cette tension limitée des déplacements et du coup habiter proche de mes lieux d'activité ou habiter loin, mais choisir là où je vis, mais subir les déplacements. Du coup, on a regardé ce que ça donnait pour ceux qui ont une perception de leur temps de mobilité entre très négatif et positif, et puis en fonction aussi du temps de déplacement quotidien, moins de 5 minutes à plus de 90 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on en tire ? Que les individus qui préféraient choisir leur lieu d'habitation quitte à allonger leur temps de trajet sont largement plus indulgents concernant leur mobilité. On les retrouve davantage parmi les individus qui ont une perception positive ou très positive de leur mobilité. Et ils sont également surreprésentés parmi les individus qui ont des temps de trajet domicile-travail les plus longs. Alors ça, c'est des résultats un peu particuliers parce que d'habitude, le temps de trajet a un impact considérable sur la satisfaction à l'égard des mobilités. Mais le fait de pouvoir choisir son lieu d'habitation semble réduire la sensation de contrainte par rapport aux mobilités. C'est-à-dire qu'on accepte mieux la pénibilité de la mobilité lorsqu'on a choisi son lieu de vie, enfin, lorsqu'on a choisi d'autres bénéfices. On est au courant de ce choix qu'on a fait, on l'assume.
On assume.
Voilà, exactement. C'était pour rentrer un peu dans les détails. Alors, très rapidement, sur les critères de choix, les motifs d'insatisfaction, parce que je vois que l'heure tourne et j'espère pouvoir échanger rapidement avec vous. Ça, c'est sur la base de ceux qui nous disent avoir le choix entre différents modes de transport. Mm-hmm. Donc nos 42% de français, si j'ai bien suivi, Xavier.
Ça doit être là.
C'est ce que j'ai dit.
C'est ça, exactement.
Donc, 42. Quand ils ont le choix, quels sont les critères, en fait ? D'abord, la rapidité. Ouais. Ensuite, la praticité et la rassurance.
La rassurance, c'est-à-dire on est sûr qu'on ne va pas être planté, quoi, que le bus ou le métro sera là et que...
Voilà, c'est le mode qui me...
me garantit que je serai à l'heure au rendez-vous prévu.
qui me garantit, ou en tous les cas, qui me donne un sentiment de maîtrise plus important. Donc ça, c'est quand j'ai le choix. Quand j'ai le choix, en priorité, je choisis le mode le plus rapide, puis le plus pratique, puis celui qui me rassure. Après, celui qui me permet de gérer mes temps, etc. Je vous disais, une note à l'égard des mobilités quotidiennes qui est donnée de 6,6 en France. Avec pas
c'est
beaucoup
moins
de...
que les homologues européens.
C'est un peu moins un que les homologues, moins. Mais bon, tout ça, c'est dans un mouchoir de poche. C'est pas très significatif comme différence. Ce qui est juste significatif, c'est qu'on voit que la satisfaction à l'égard des mobilités, c'est quelque chose qui est assez... Tout territoire confondu, on tourne autour de 6-5, sauf dans l'agglo parisienne, où là, vraiment, enfin, il y a quand même un décrochage.
Les congestions expliquent les difficultés rencontrées.
Ouais, il y a quand même un décrochage là-dessus. Alors, du coup, sur ceux qui nous ont dit ne pas être satisfaits de leur mobilité, en gros, c'est ceux qui ont donné une note inférieure à 6, là, on a cherché à comprendre pourquoi ils n'étaient pas satisfaits. D'abord, parce que c'est trop coûteux, et juste derrière, parce que c'est trop long. Et puis qui a fait son entrée dans le top 3 parce que c'est trop polluant.
Ça, c'est nouveau.
Ouais, c'est nouveau, ça fait son entrée. Je ne sais plus lequel était...
La préoccupation environnementale qui
est revendiquée. Oui, on va y revenir. Alors, ils sont trop polluants, ça peut renvoyer à « je subis trop la pollution » ou « je pollue et... »
C'est mon bilan carbone qui n'est pas bon.
Voilà, et c'est un motif d'insatisfaction pour moi. Je voudrais passer à la dernière...
Vous en avez parlé, la mobilité as a service.
Ouais, je vais en parler. Ouais.
Les mobilités émergentes, exactement. Et cette conscience environnementale que vous venez d'évoquer.
Alors, 68% des Français nous disent avoir changé leur habitude pour agir en faveur de l'environnement. C'est là, pour le coup, on est en tête au niveau européen. Alors, vous voulez dire, ça veut tout et rien dire. Parce que pour certains, ça va être décélérer de 10 km/h, prendre l'avion une fois de moins par an, ou vendre sa voiture. Ça peut renvoyer à des,
large,
à des réalités extrêmement multiples. Mais du coup, ce qu'on a cherché à comprendre en croisant avec d'autres résultats dans l'enquête, c'est ceux qui nous disent, parce qu'ils nous ont dit l'avoir beaucoup fait, l'avoir déjà fait, un peu fait, etc. Mais ceux qui nous disent l'avoir beaucoup fait, qu'est-ce qu'ils ont déclaré par ailleurs comme évolution de pratique ? Et en effet, ceux qui nous disent avoir beaucoup changé leur comportement pour agir en faveur de l'environnement ont déclaré par ailleurs avoir beaucoup réduit l'usage de la voiture automobile. Alors moins 20, c'est un solde. C'est le solde entre ceux qui nous disent qu'ils ont augmenté et diminué. Donc voilà, ils ont beaucoup diminué. Ils ont augmenté, on est sur du plus 12 sur la France, leur usage du vélo. De façon beaucoup plus significative, ils ont augmenté leur pratique de la marche. Et ils ont augmenté dans une moindre mesure leur usage des transports collectifs. On est sur la même... Non, on est même plus faible, hein, puisqu'en France, on est à plus 2. Au niveau européen, ça revient à la même chose que le vélo, mais sur
la
France... La
courbe orange, c'est l'Europe, et la France, c'est le chiffre en vert.
Oui, enfin, bleu ou vert, enfin, exactement. Voilà, donc, ça a des impacts concrètement sur les pratiques. D'ailleurs, quand on leur demande à l'avenir, pour vos déplacements, pensez-vous que votre usage des modes de transport va augmenter, va rester stable ou va diminuer ? Donc là, on est sur des intentions pour l'avenir, on n'est pas sur des choses qui vont se réaliser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu, avec 2014 et 2016, voir entre ce qu'ils nous avaient dit qu'ils allaient faire et ce qu'ils ont fait, ce qui fonctionnait. Ouais. En fait, ça fonctionne toujours, c'est-à-dire quand ils nous disent qu'ils vont augmenter quelque chose, ils le font. Quand ils nous disent qu'ils vont diminuer quelque chose, ils le font. Mais ils
ne
le font pas dans autant que ce qu'ils déclarent, en fait, en général. Sauf, ça, il y a un mode pour lequel ça ne s'est pas vérifié, à votre avis ?
La marche ?
Non, le covoiturage.
Le covoiturage,
ils nous disent tout le temps qu'ils vont augmenter, ils n'augmentent jamais. Mmh. Depuis 2014, on a 30% des Français qui covoiturent. Globalement, la moitié pour des déplacements du quotidien, la moitié pour de la longue distance. un peu plus avec leur entourage que sur des plateformes. Le covoiturage, il est quand même beaucoup informel. Mais ça, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau plancher quoi, depuis 2014. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas et la structure ne bouge pas non plus. C'est-à-dire qu'en fait, soit les nouvelles offres qui sont arrivées entre-temps ont repris la main, soit les avantages perçus sont trop faibles, donc ils nous disent qu'ils ont envie, mais ils ne bougent pas. Pour le reste, ça fonctionne.
Alors sur votre tableau, là, il y a 3 chiffres en rouge qui annoncent une baisse de l'usage.
Ouais, alors,
ceux-là qu'il faut peut-être regarder de près.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la même slide que je ne vous montre pas ici, mais sur les niveaux de satisfaction. En fait, on est sur, que ce soit niveau de satisfaction ou niveau d'intention, on est sur les mêmes modes. C'est-à-dire que les modes qui donnent le plus de satisfaction et ceux sur lesquels on se projette le plus, c'est le vélo, la marche, le covoiturage, suivi du VTC. C'est la même chose pour les niveaux de satisfaction. Sauf que pour les niveaux de satisfaction, la voiture personnelle, automobile personnelle que vous voyez ici à moins 4 pour l'avenir, elle est le mode le plus satisfaisant aujourd'hui. Elle est en tête, d'accord ? Donc on est sur le mode qui est le plus satisfaisant aujourd'hui, mais le mode, un des modes sur lequel on se projette le moins dans l'avenir. Et justement, donc on a cherché à creuser ça. On a un docteur en psychosociaux dans notre équipe, donc on a cherché à comprendre en fait où est-ce qu'ils en étaient dans leur changement. On a travaillé sur le à partir du modèle transthéorique avec les 5 phases du changement. On a essayé de traduire tout ça en question. Alors, sur les automobilistes, donc là, on est vraiment sur la population des automobilistes français, environ 86% du coup de l'échantillon. On a 45% qui ne souhaitent pas changer leur usage. Merci, très bien, au revoir, passez, voilà. Je reste sur ma voiture, je suis content, ça me satisfait, c'est le meilleur compromis pour moi. On a 18% qui nous disent « je l'utilise déjà le moins souvent possible ». Et on a 31% qui aimeraient changer de mode de transport, et 26% de ces automobilistes qui ne savent pas comment faire. Donc, on a quand même une population cible intéressante à adresser et une véritable part de la population qui est dans une posture de changement et qui n'a pas encore identifié comment ils allaient faire. Ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde pourquoi ceux qui ont changé ont changé. Ceux qui utilisent moins la voiture, à votre avis, pourquoi ils l'utilisent moins qu'il y a 2 ans ? Le prix ? Le coût ?
Le stationnement ?
Le stationnement. Alors, pourquoi on utilise moins la voiture qu'il y a 2 ans ? La première raison, c'est parce que mon contexte de vie a changé. Ce qui nous fait bouger dans nos mobilités, les mobilités, c'est extrêmement inertique, c'est des rituels, enfin, voilà, on en a un peu parlé hier. C'est mon contexte de vie a changé. J'ai déménagé, j'ai changé de boulot, j'ai eu un enfant est parti. Là, il y a une marge, il y a quelque chose à faire sur ces populations-là qui sont en contexte de changement. J'ai moins d'argent, enfin, ça me coûte trop cher par rapport à il y a 2 ans, où il y a des nouvelles offres qui sont apparues autour de moi, donc j'ai changé. Ça, c'est vraiment très minime hein, comme population à adresser. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté ceux qui ne sont pas dans des situations de changement. Ça veut dire que si on vise le nombre à un moment de bascule, il faut avoir aussi des politiques et des actions spécifiques sur vos nouveaux arrivants, sur les personnes qui viennent d'avoir un enfant ou qui vont changer, parce qu'elles sont dans un contexte où elles sont plus sensibles à ce changement. Je m'emballe. Donc je vais conclure.
Alors, est-ce que le numérique peut être une solution
sur le masse.
Est-ce que le numérique peut être une solution ?
Ils étaient tous très excités, voilà. L'ADEME, bien sûr, MAPI surtout, qui fait partie de nos sponsors sur la question du MAS. Alors, nous, on a cherché à définir ce qu'était le MAS et il fallait que ça soit compris aussi bien quelqu'un de Cologne, de Clermont-Ferrand, de Saint-Denis-sur-Oron, enfin voilà, sur 4 pays, 4 langues, etc. Il fallait que ce soit compris par tout le monde. On a dit, qu'est-ce que c'est que pour vous ? Demain, de nouvelles offres regrouperont plusieurs modes de transport public ou privé dans une même solution de mobilité. Concrètement, vous rentrez votre destination dans une application pour un trajet immédiat ou à venir. L'application vous propose différentes options pour vous y rendre avec un seul ou plusieurs modes de transport. Vous choisissez votre trajet en fonction de vos besoins ou de vos envies. Les différents modes de transport sont réservés. Vous êtes guidé pour y aller et le paiement s'effectue dans un ticket unique ou est compris dans un abonnement. Donc, on a cherché, voilà, c'est la définition sur laquelle on s'est arrêté. Vous pouvez la réutiliser. Et sur cette base-là, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit... Ce n'est pas une méthodologie très intéressante, l'enquête quanti, hein, quand même, pour se projeter sur des choses qui n'existent pas. Mais ça nous donne des pistes. Ça nous dit qu'on a 48% des Français qui sont intéressés, mais surtout, on en a 22% qui nous disent qu'ils ne savent pas, c'est-à-dire qu'ils ne se projettent pas du tout dans ce truc qu'on leur décrit. Bien entendu, plus on habite, plus on est CSP-, plus on est non diplômé, plus on est âgé, plus on habite dans les péris, et moins on comprend de quoi il ressort. Et quand on leur demande quels sont les avantages qu'ils perçoivent, d'abord, accéder plus simplement aux moyens de transport, et puis juste derrière, diminuer le recours à la voiture personnelle, qui est le premier élément qui ressort pour les automobilistes quotidiens. Donc, ça nous indique quand même des pistes, et du coup, on propose en effet ce que pourrait être un masque.
Perspective, voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Quels sont les conseils que vous donnez, ou que l'enquête permet d'imaginer
sur
les axes de développement.
Sur le masque pour les centres métropolitains, la proposition de valeur, c'est que le coût global. Soit le coût global de l'utilisation de ces mobilités durables, actives, en partage, etc., soit moins important que le cumul de tous mes abonnements. D'accord ? Donc aujourd'hui, j'ai un abonnement pour de la location de voiture, un abonnement pour du vélo en libre-service, un abonnement pour des transports en commun. Donc l'idée, en fait, la valeur, elle est sur le coût. Et d'ailleurs, ça ressort parce que ceux qui nous disent qu'ils ne sont pas intéressés dans les centres métropolitains, ils nous disent parce que j'ai peur que ça soit trop cher. Donc il y a vraiment quelque chose sur la fluidification et le coût de ces différents modes de transport. Sur les zones périphériques ou le peu dense, clairement, et comme vous le disiez hier, le MAS n'a de sens que s'il y a des offres. On ne peut pas packager ou combiner des offres s'il n'y en a pas. Par contre, il faut être un peu inventif sur ces offres. Ce n'est pas forcément du TAD, ce n'est pas forcément du transport lourd. On peut très bien imaginer que du covoiturage avec une garantie retour, plus du parking quand je vais en ville, bah, ça fasse déjà un mini-mas, en fait. Voilà, c'est déjà une offre. Et c'est une offre qui permettra sans doute pas la démotorisation, mais d'agir sur le deuxième ou sur le troisième véhicule des ménages. C'est de ça dont on parle, hein. On ne parle pas de démotorisation. Alors, ce qui est clair dans les zones moins denses que les centres urbains, c'est que pour qu'il y ait masse, il faudra en passer déjà par de l'offre, ensuite par un diagnostic de mobilité, c'est-à-dire que vous allez devoir proposer des solutions qui sont variables en fonction des publics, et puis vous allez devoir aussi accompagner l'usage des offres. Alors j'en ai fini, je donne juste quelques pistes hein, voilà. pour la journée.
Et qu'on va retrouver effectivement dans les séquences de cette journée.
Ça, c'est issu d'un programme qu'on vient de finaliser qui s'appelle Mobility as Networks. Pour le coup, tous les livrables sont ouverts et publics. On a bossé pendant un an avec des collectivités, notamment Lyon, le Grand Lyon là-dessus, pour arriver à un certain nombre d'axes pour développer cette mobilité en réseau. Alors la mobilité en réseau, elle renvoie... Au prisme des usages, alors que le MAS, pour moi, renvoie pour le moment au prisme de l'offre de mobilité. Donc, ériger les proximités comme principe directeur de l'aménagement, densifier ou apaiser l'usage des infrastructures, donc là, ça renvoie à tout ce qui est maîtrise d'usage et favoriser, du coup, des infrastructures pour les modes actifs. Alors, s'affranchir des frontières administratives, organiser une gouvernance en réseau, je crois qu'on a dit que c'est un sujet qu'on n'abordait pas. Hier. Non, mais ça renvoie à ce qu'on se disait hier sur la question des bassins de vie ou des territoires de vie courante qui sont bien sûr pas les mêmes que les territoires administratifs, et puis proposer quand même une intégration, donc une mobilité simplifiée, fluidifiée par l'intégration d'un certain nombre d'offres. Et je vous laisse ça en réflexion pour notre travail aujourd'hui.
Merci beaucoup Léa Marzoff pour ce propos introductif qui effectivement balise et cadre bien les échanges à venir. Vous restez avec nous toute la journée, on aura certainement l'occasion d'échanger. Est-ce que déjà à ce stade, suite à l'intervention de Léa, vous avez un commentaire, une réaction, une question particulière peut-être sur un des points précis abordés à travers cette présentation? On peut prendre quelques instants si vous le souhaitez, même si comme Léa l'a rappelé, tous ces thèmes-là vont être aussi illustré par des exemples et du partage d'expériences dans les différentes rencontres et tables rondes que nous allons avoir tout au long de cette journée. Y a-t-il des demandes de précision ou des questions particulières? Non, vous avez été d'une clarté limpide, parfaite. Okay. Si, peut-être, monsieur, juste devant.
Oui, est-ce qu'on peut revenir une minute sur les différences entre multimodalité et intermodalité? Par exemple, ce matin, j'ai pris en enfilade le bus pour venir de Saint-Grégoire, suivi du métro. Qu'est-ce que c'est ? Multimodalité, intermodalité ?
Oui, alors on avait en fait on avait deux options pour l'intermodalité et deux options pour la multimodalité. La multimodalité, c'est bien j'utilise un mode de transport ou bien un autre en fonction des circonstances.
Donc aujourd'hui, vous êtes, le transbus, demain, je prends ma voiture.
Voilà, vous êtes multimodal si un jour vous allez au boulot en transport en commun et l'autre jour vous y allez en bus. Vous êtes intermodal si vous combinez différents modes de transport.
Ce matin, vous étiez intermodal,
transport.
Monsieur.
D'accord, donc c'est une histoire de temps, en fait.
C'est une histoire.
Multimodalité, c'est à des moments différents.
Voilà, exactement.
Et intermodalité, c'est au cours d'un même trajet.
C'est au cours d'un même trajet. Et ce qu'on, enfin, après avoir beaucoup travaillé et œuvré avec des opérateurs, des collectivités pour agir en faveur de l'intermodalité, j'en reviens un peu pour essayer de privilégier la multimodalité, tout simplement parce qu'on est fait ainsi qu'on préférera toujours la trace directe à la rupture de charge. Et que du coup, je me dis, qu'est-ce qu'on peut proposer d'efficace pour favoriser la multimodalité? Notamment, le vélo et le vélo à assistance électrique sont des vraies réponses en alternance à la voiture ou au TC. Et c'est ce que racontait Vincent hier sur le cas du réseau de Genève. C'est ça, hein? Où en fait, ce qui était
supportable,
c'était Genève. Ce qui était supportable, même si c'était très long, parce que c'était en trace directe et que du coup je me posais dans le bus, je passais à autre chose, n'est plus du tout supportable à partir du moment où j'ai une rupture de charge.
Hier, par rapport à Genève, c'était le confort et la rupture de charge qui avaient été surtout mis en
œuvre. Oui, mais du coup, on était sur des trajets qui étaient, monomodaux TC. D'accord ? Et on peut imaginer que certains jours, ces personnes-là utilisaient d'autres modes de transport. Ce que je veux juste dire, c'est que, la rupture de charge, la bascule, même si on fait des efforts, même si on met des parkings en gare, c'est compliqué.
Il y avait une question.
C'est pas vraiment une question, c'est que l'intermodalité, elle suppose la possibilité de le faire. Par exemple, c'est-à-dire de faire varier son mode. Je pars en vélo, je peux le mettre dans un bus ou un tramway, etc. Donc ça, c'est quand même des choses que les collectivités doivent prévoir. Enfin, parce que, par exemple, je prends l'exemple des Pays-Bas, à Amsterdam, vous pouvez mettre votre vélo dans le train, dans le tram, etc. Ça ne pose pas de problème. À Paris, c'est carrément impossible. Alors, donc effectivement, le vélo, parce qu'effectivement, on peut avoir sur des trajets longs une nécessité d'utiliser ces différents modes de transport pour le même trajet.
Bien
ça,
entendu,
ça suppose vraiment des modifications techniques.
On va le voir tout à l'heure.
Il y a des couronnes métropolitaines où le chaînage voiture TC est quasiment inéluctable, en fait. Donc il y a des cas un peu précis. Quand même dire aussi qu'on a considéré la marche dans l'intermodalité, hein. Donc on a aussi des moments où on n'a pas à devoir aller se garer. Hein. Il faut juste qu'on marche jusqu'à un mode de transport, mais qu'on marche plus de 5 minutes. Quoi. C'est-à-dire que voilà, ça fait aussi partie.
Merci beaucoup Léa Marzoff pour cette première intervention.